silence.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne en ce premier mercredi de septembre, la rentrée effectuée. Mais il y a quand même du temps pour aller au cinéma. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Damien. Bonjour mes chéris. Bah oui, oui, y a, au contraire même, après le stress de la rentrée, il faut aller se détendre au cinéma. Je vois que ça. Que ça, hein, n'importe quel âge, là, ça fera du bien. C'est vrai que ça stresse toujours une rentrée scolaire. Hein. Moi, j'ai des souvenirs là-dessus quand même. Hein. Tiens, pas toi, Damien ?
Oh aussi. Non, moi j'aimais bien rentrer
bien
à l'école.
Ah, moi, ça me stressait un peu. Bon, j'avais préféré les vacances. Mais en tout cas, on va quand même justement parler de cinéma parce que c'est l'endroit hein, où on peut être bien. Voilà, tranquille et tout, et puis se détendre, ou avoir peur, ou frissonner, ou etc., etc. Hein, un tas de sensations, voilà. Donc, on va commencer par un film magnifique, merveilleux. C'est une animation française. Mais alors là, toutes les critiques, tous les journaux ont encensé ce film. Parce qu'il est vraiment très, très beau. Ça s'appelle « Les hirondelles de Kaboul ». C'est un film de Zabou Breitman. On la connaît, Zabou Breitman. C'est une grande actrice, déjà, réalisatrice, scénariste. Elle est française, elle a 59 ans. Elle a déjà eu deux ou trois prix, beaucoup de nominations. Et c'est elle, par exemple, qui avait réalisé « Se souvenir des belles choses ». Et en 2003, et là, elle avait eu un prix pour ce film qui est formidable avec Isabelle Carré et Bernard Campan, qui était un film où on pouvait quand même un peu pleurer par moments en regardant ce film, effectivement. En tout cas, là, c'est Les Hirondelles de Kaboul, c'est qui a quand même un prix, 8 nominations. Dont 6 nominations au Festival de Cannes 2019. Et c'est le prix Fondation Cannes à la diffusion. Il y a eu 2 nominations également au Festival du film d'animation d'Annecy en 2018. Donc il en valait la peine, hein, franchement. Moi, je lui aurais donné encore plus de prix parce qu'il est magnifique, magnifique, c'est le mot quand même. Ça se passe en été. 1998. Kaboul est en ruine et occupé par les talibans. Mohsen et Zounera sont jeunes. Ils s'aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leur vie. Alors, en fait, c'est la première fois que Zabou Breitman met en scène un film d'animation. Hein. Elle a réalisé des longs métrages, mais pas de films d'animation. C'est son premier. Et elle a une co-réalisatrice aussi avec elle. Hein. Je ne l'ai pas dit parce que j'attendais un peu de vous raconter l'histoire. C'est Eléa Gobé-Mevlek, qui est une réalisatrice d'animation. Elle est créatrice graphique également. C'est elle qui crée les personnages et c'est son premier long métrage, Eléa Gobé-Mevlek. Ouais, c'est bravo, bravo pour ses créations en tout cas. Donc c'est un. Alors dans les voix, on a Simon Abkarian. Ah, Simon Abkarian, c'est celui qui me fait très peur dans les rôles où il fait le méchant parce qu'on y croit vraiment, ce qui prouve qu'il est vraiment doué. Mais là, bon, il fait une voix. On a Zita Hanro. Alors, on a parlé d'elle déjà, Zita Hanro, aujourd'hui.
Oui.
Non ?
La semaine dernière, on
a
parlé.
Ah, c'était la semaine. Bah oui, puisque là, on vient de commencer.
À l'occasion de la vie scolaire.
Ah, voilà. C'est elle qui fait la CPE de la vie scolaire. Voilà. C'est elle qui fait la gentille, d'ailleurs, dans le film. Ensuite, on a les voix de Michel Jonas. On a Swann Arlo. On reconnaît Swann Arlo. Oh là là, lui, alors c'est vraiment... 2019, c'était vraiment son année, hein, Swann Arlo. Et puis on a Yam Abbas dans les voix principales. Donc c'est le... En fait, le personnage de Nazish, là, dans le film, est doublé par Jean-Claude Déré, qui est le père de Zabou Breitman. Et j'en parle parce qu'il est décédé quelques mois après avoir enregistré sa voix pour le film. Jean-Claude Déré. Et Zabou Breitman a eu un chagrin immense de perdre son papa. Ouais. Mais vraiment, on en a parlé à ce moment-là et elle a eu un gros, gros chagrin. Et le film dure 1h21. Et je pense que Damien nous a mis de côté une petite bande-annonce. Merci.
My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue.
Ça ira, ça ira, baisse la musique en tout temps du dehors. Tu vas nous aider.
Désolée, Nastaran. Merci.
J'aimerais t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète. Où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi.
Mais c'est merveilleux.
Imagine, éduquer des enfants à être libres.
Oh là là, j'étouffe là-dessous.
Attends, je vais t'aider.
Oh, vous ne voyez pas, c'est interdit, stop.
Chut, mais c'est Valère, la mosquée, écoutez le prêche, dis-moi la machia. Ça te remettra les idées en place.
Je dois amener mon épouse chez ses parents.
Qu'est-ce que tu as?
On m'a amené une nouvelle prisonnière.
Et alors ?
Et alors ? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son sadré devant moi.
Tu lui as parlé ?
Non. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée ?
C'est un couple sans problème, gentil.
C'est fichu. Les talibans nous détruisent.
Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière ?
Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit.
Et te tueront, Sunaira.
Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps ?
Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ?
Ça, c'est la voix de Jean-Claude Déré.
Voilà donc les hirondelles de Kaboul.
C'est sa voix, la voix de son papa. Là. Oui, c'est titré « Une pépite, une merveille, avoir d'urgence ». Oui, c'est magnifique. Et le geste osé, je ne peux pas dire ce que c'est parce qu'il ne faut pas dévoiler, mais on l'entend dans l'extrait à un moment donné et qui va effectivement faire basculer.
C'est pas grand-chose.
C'est pas grand-chose, non, justement. Allez voir ce film, vraiment, vraiment, allez le voir. Allez le voir avec tout le monde. Hein. Là, je pense que tout le monde peut y aller. Hein. Et, enfin, pas les petits, bien sûr. Il faut, bon, je dirais, une dizaine d'années, quoi, minimum. Mais sinon, allez le voir parce que c'est vraiment un très, très beau film. Mais qui, de temps en temps, donne des petits frissons et beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Ce qui est rare, quand même, pour un film d'animation, donner autant d'émotions. Eh oui, ce qui prouve que Zabou Breitman connaît bien son affaire. Ensuite, j'ai un drame, comédie. Ben voilà, on mélange encore les deux. Décidément, la semaine dernière, je crois que c'était un peu ça aussi. On mélangeait comme ça. Drame, comédie, c'est français. Fête de famille. Ça, c'est le titre, Fête de famille. C'est un film de Cédric Kahn. Oh, bah, Cédric Kahn, on le connaît absolument, là, lui. Il n'y a plus de secret, là. Acteur, scénariste, réalisateur, il a 53 ans. Il a déjà eu 3 prix et 33 nominations. Et pour Fête de famille, il a une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême. Dans la série avant-première, en 2019. Là. C'est quoi ? C'est l'histoire, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est pas moi qui parle, hein. C'est l'héroïne du film. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. Voilà. Andrea ne sait pas encore que l'arrivée surprise de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale. Et Dieu sait qu'une tempête familiale, on sait ce que c'est. Quelquefois, ça déménage. Tout le monde sait ce que c'est qu'une tempête familiale. Au moins une fois dans sa vie, une famille a connu une tempête. C'est clair. Alors, bon, c'est quoi ça? Ben, c'est qui alors, Andrea? C'est qui? Laquelle nous dit « c'est mon anniversaire, je voudrais qu'on parle que de choses joyeuses ». Eh bien, c'est Catherine Deneuve qui a le rôle d'Andrea. Ensuite, on a alors Claire, là, qui revient après sa disparition de 3 ans, c'est Emmanuel Berco. C'est un joli casting quand même aussi, là. On a Vincent Macaigne et Cédric Kahn, qui est un acteur donc, qui joue dans le film, dans son film également. Et l'intrigue en fait, du film est ponctuée par 2 chansons. Ça, c'était important quand même, c'est pour ça que je l'ai noté. « Mon ami la rose », c'est une chanson de Françoise Hardy. Et « L'amour, l'amour, l'amour » de Mouloudji. Voilà. Il y a un morceau de rap aussi, un chouette morceau de rap. Et oui, Cédric Kahn, il a confié à des journalistes « Je rêve d'un film où tout se dirait en chanson ». Et oui. Et c'est lui qui a choisi les 2 chansons, là, d'ailleurs. C'est son 11e film, Cédric Kahn, son 11e oui. Long-métrage. Eh oui. Alors, il nous dit que, par rapport à cette histoire faite de famille, qu'il l'a portée en lui depuis longtemps, peut-être même depuis toujours, et qu'il m'a fallu tout ce temps et tous ces films pour m'autoriser à la raconter. Mais à partir du moment où ça s'est imposé, tout est allé très vite, à l'automne 2017, alors que je venais de terminer La Prière, le film La Prière. On en avait parlé d'ailleurs ici du film La Prière. J'ai écrit un premier traitement d'une 20aine de pages que j'ai fait lire à Sylvie Piala, la productrice, qui a immédiatement eu l'intuition que ce projet devait voir le jour, très très vite, comme si elle avait senti une urgence et un risque de recul. Et après, tout s'est enchaîné très rapidement. Voilà. Et pour moi qui suis d'une nature lente, nous dit-il, ça a été un peu vertigineux, mais je l'ai pris comme un défi. C'est, en fait, Fête de famille, c'est construit en 3 actes. Les dialogues sont abondants. Le dispositif du film emprunte au théâtre. Mais Cédric Kahn n'avait pas pour intention de faire du théâtre. Il nous dit la théâtralité vient également des personnages eux-mêmes, puisqu'on a le sentiment qu'ils se mettent en scène, qu'ils jouent parfois un rôle qui leur est imposé, avec un côté presque vaudeville par moment. Et concernant les 2 mises en scène qui interviennent au cours du récit, le film de Romain et la pièce d'Emma, ça, on le voit après, quand on va voir le film. Hein. Elle fonctionne, en fait, très bien, quoi. Ça fonctionne très, très bien. Comme dans une pièce de théâtre, finalement. En fait, il voulait raconter, Cédric Kahn, une histoire, l'histoire d'une famille un peu dingue, mais aussi très joyeuse, où chacun peut exprimer sa fantaisie et sa créativité. Ils ont entre eux des rapports très durs, très cash. Ils se balancent parfois des choses terribles. Mais c'est leur façon à eux de s'aimer. Je voulais que ce soit très vivant, très tripal, avec des enfants qui ne se tiennent pas, qui boivent du vin, qui grimpent sur les tables, et des adultes qui se conduisent. Voilà. C'est le côté quand même très chouette du film, ça. Hein. Alors c'est, voilà, en fait c'est le premier film, enfin, il y a une particularité quand même, c'est le premier film dans lequel Cédric Kahn joue. Un de ses films, c'est le premier dans lequel il joue, lui, comme acteur. Eh oui. Eh oui. Voilà, c'est...
On écoute la bande-annonce.
Oui, c'est ce que je pouvais dire de plus sympa sur ce film, oui. Oui.
Bonjour. Merci.
Ah, bonjour. Ah, mais je vous attendais plus tôt.
C'est Rosita.
Je suis Vincent, le frère de Romain.
Enchanté.
Il est courageux de vous amener ici. Hein.
Allô?
Tu restes où tu es et on vient te chercher, on vient tout de suite, hein.
J'ai pas de cadeau pour maman.
On s'en fout, le cadeau c'est toi.
Tu m'as tellement manqué.
Elle disparaît pendant 3 ans et quand elle revient, on doit se plier à ses 4 volontés. C'est pour ça que t'es revenu, pour récupérer ta thune.
Oui, absolument.
C'est indiscutable, on a de l'argent à Claire. Pour le montant, ben on verra.
Mais non, y a pas à discuter du montant. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. On est bien là, non?
Cela a vraiment un rapport un peu spécial au pognon. Hein.
J'ai l'impression que ça vous arrange bien de penser qu'elle est folle.
Si, si, je t'assure, elle est 100% folle.
Je vous présente Sébastien, un ami de lycée. On a eu une petite histoire à l'époque, mais maintenant il est agent immobilier et marié.
En fait, je ne suis pas Sébastien, je suis Fabien, son frère.
Tu viens faire une estimation de la maison.
Bon, bah alors on vend.
Tu veux pas qu'on en discute tranquillement tous ensemble?
Je fais ce que je veux.
Ça va partir en sucette exactement comme d'habitude.
Je crois que mon frère préfère s'arranger à l'amiable.
Putain, c'est le numéro de mon frère! Je peux te payer 3 voitures comme ça, alors tu paieras, voilà! Un peu de générosité, là!
Ça va?
Ça, bon, ça ne va pas, maman.
C'est l'angoisse. Cette maison, cet anniversaire, cette famille.
Vous êtes ma famille, ma seule famille, et je vous aime.
C'est quand même quelque chose de nous voir tous réunis avant que tu passes l'arme à gauche. C'est sur quoi?
C'est sur la famille.
Ah sérieux, vous faites une pièce sur nous?
Ouais, je vais tout balancer.
Voilà donc la fête de famille voilà, de Cédric Kahn.
C'est bien ce que je disais, c'est arrivé au moins une fois minimum dans toutes les familles de France et de Navarre, je pense. C'est, voilà, c'est à voir, parce que c'est quand même réjouissant entre drame et comédie. Ça vaut la peine, mais bon, pour les fans de Catherine Deneuve, hein, franchement, là, hein, il n'y a rien à dire. J'ai dit 1h41, ouais, je crois que je l'ai dit. Alors ensuite, j'ai une comédie dramatique française, ça s'appelle Fourmi. Ouh, ça intrigue un peu quand même, hein, ce titre. Le jeune Théo, surnommé Fourmi, aimerait redonner de l'espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L'occasion se présente quand Théo est sur le point d'être recruté par un grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n'a pas le cœur d'imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser. C'est un film de Julien Rapeneau. C'est un réalisateur, scénariste, dialoguiste, adaptateur français de 47 ans. Alors, pour la petite histoire, il est le fils du réalisateur Jean-Paul Rapeneau. Jean-Paul Rapeneau, qui a 87 ans aujourd'hui, il me semble. Et alors, il est vraiment tombé dans une famille d'artistes, Julien Rapeneau. Il a un frère qui est compositeur, qui s'appelle Martin Rapeneau. Il a une tante réalisatrice de télévision, Elisabeth Rapeneau, et il avait son père. Donc, effectivement, voilà, il avait un grand choix autour de lui, et du coup, il est devenu réalisateur, scénariste, dialoguiste, adaptateur, comme je le disais. Alors, ensuite, on l'a, en fait, pour ce film-là, oui, alors, attendez, je vais citer d'abord les acteurs avant d'oublier, quand même. Laurent, c'est François Damien, le papa. Ah, on l'aime beaucoup, François Damien. Chouette, il revient. Oui. Ensuite, on a Théo, c'est Malone Paquin. Chouette, il est chouette, Malone Paquin. On a André Dussolier, qu'on aime et qu'on connaît. On a Ludivine Sagnier, pareil. Laetitia Doche. Ouh, c'est un beau casting aussi. Vraiment. Ah oui. Alors donc, le père, là, je voulais quand même un petit peu... Le père, là, Jean-Paul Rapeneau, c'était quand même, pour dire comme ça, c'était La vie de château, avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret. C'était Les mariés de l'an 2, avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert. C'était Cyrano de Bergerac, avec Gérard Depardieu. C'était Le sauvage, avec Catherine Deneuve et Yves Montand. C'était Bon voyage, avec Isabelle Adjani, Yvan Attal. C'était Belle famille avec Mathieu Amalric et Gilles Lelouch et Nicole Garcia. C'était le Hussard sur le toit aussi, avec Juliette Binoche, François Cluzet. Et alors, il a fait très peu de films, effectivement, parce qu'il a commencé à 34 ans, il a fini à 83 ans. Il en a fait très peu, mais ils sont tous extraordinaires, magnifiques. Ils ont tous été primés. Il n'y a pas un film, tous, ils ont eu au moins... Alors, il y en a, c'est un prix, des nominations, 18 prix, 4 prix, 13 prix. Enfin, il a eu... Tous ces films ont été primés à ce papa Rapeneau. Et oui, Jean-Paul Rapeneau. Bon, dans les titres que j'ai nommés, je suis sûre qu'il y en a au moins 3-4 qu'on a tous vus, quoi. Si on ne les a pas vus au cinéma, on les a vus à la télévision. Donc, il a de quoi faire. Hein. Il a quand même une sacrée hérédité, Julien Rapeneau. Apparemment, lui, il s'en sort pas mal quand même, parce que en 2015, il a réalisé Rosalie Bloom. Rosalie Bloom avec Sarah Giraudot, Anémone, Philippe Rebaud, qui était quand même aussi, qui a été nommé au César 2017 quand même. Hein. Il a été Julien Rapneau, là, il a été scénariste sur 13 films entre 2003 et 2013, et pas n'importe quel film. Et d'ailleurs, son premier scénario, c'était avec son père en 2003 dans le film Bon Voyage que je viens de citer là, avec Adjani et Yvan Attal. Ouais. C'était son premier scénario. Voilà, c'est quand même. Il a voulu adapter un roman graphique. Le roman, c'est Dream Team de Mario Torrecillas et Arthur Laperla. C'est après son film, en fait, le premier Rosalie Bloom, là, il n'avait pas particulièrement l'intention d'adapter une nouvelle fois une bande dessinée. Mais bon, du coup, il a vu quand même la couverture de ce roman graphique espagnol. Et puis voilà, il a eu un coup de cœur pour cette histoire. Et du coup, on a l'histoire de Fourmi. Alors, il nous dit d'ailleurs, le réalisateur, je voulais un récit rythmé tout en structurant l'histoire autour du rapport père-fils et en traitant les répercussions du mensonge de Théo sur plusieurs des personnages. Toutes les intrigues renvoient d'une manière ou d'une autre à leur remise en mouvement dans la vie. Mais l'enjeu principal tout au long de l'écriture, ça a été de trouver le ton juste pour que cette histoire et ces personnages sonnent vrais. Travailler leur humanité. Voilà ce qu'il voulait. C'est joli, ça, comme idée, je trouve. Travailler l'humanité des personnages. Alors lui, Théo, c'est le plus petit de la bande de l'équipe de foot. C'est d'ailleurs à cause de sa petite taille que Arsenal ne le recrute pas. Bah, Théo n'aime pas ce surnom, évidemment. Il n'aime pas s'appeler Fourmi. Mais au cours d'une des scènes préférées, le réalisateur parle de lui, là, hein, au cours d'une de mes scènes préférées, son père lui explique que la fourmi est l'insecte qui a le meilleur sens du collectif dans la tempête. On est au cœur du sujet, la solidarité, l'entraide, l'équipe, les rapports de famille, comment on se soutient, comment on ne se laisse pas tomber. La fourmi est un joli symbole de cette thématique. C'est vrai que la vie des fourmis, c'est quelque chose d'assez passionnant, hein. D'ailleurs, l'écrivain Weber, là, il en a parlé dans son livre « Les fourmis ». Il en parle de ça, justement. Et voilà, donc c'est un film... Ah oui, alors Malhomme Paquin, là, qui joue le rôle de Théo, là, il nous dit, pour trouver le personnage de Théo, c'était un des principaux défis du film, en fait. Il fallait trouver une perle rare, un garçon de 12 ans, de petite taille, qui soit bon en comédie et qui sache jouer au foot. Donc, il fallait que ce soit au minima crédible physiquement, quoi, en fait, hein. Donc, ils ont rencontré 150 enfants, à peu près. Hein. Et alors, la directrice de casting a écumé les clubs de foot. Et du coup, et elle a fait du casting sauvage également. Et du coup, elle a eu un coup de cœur pour Malhomme Paquin, qui réunissait beaucoup des caractéristiques que je cherchais, notamment l'énergie et la malice de personnage alliés à une vraie sensibilité. De plus, Malhomme joue au football depuis qu'il a 7 ans. Bah, ça tombait bien. Et il adore ça. Par ailleurs, je savais que Malhomme avait déjà une expérience d'un plateau de cinéma, puisqu'il avait interprété le rôle-titre dans Rémi, sans famille. C'était lui.
D'accord.
Le petit Malhomme Paquin. Eh oui. À l'époque de son tournage, là, le film Rémi, sans famille était en montage, d'ailleurs, puisqu'il est sorti après, mais avant celui-là, avant Fourmi. Donc, on retrouve ce jeune Malhomme Paquin, qui a beaucoup, beaucoup de talent, quand même, hein. Fourmi, eh oui, c'est Fourmi.
Et on écoute la bande-annonce ?
Ah oui, merci, allez. Ça dure 1h45.
Bah, ça fait une demi-heure que je t'attends. T'as dû oublier. J'y vais, sinon je vais être en retard.
Tu vois, lui, il a beau être le plus petit, il a un sacré pif.
Hé ! Carton rouge, c'est carton, ça !
Ah, le père de toi a fini sa sieste. Il est complètement ouf, ton père, Fourmi.
Je m'appelle pas comme ça. Là, il est juste dans une mauvaise passe.
Théo !
Qu'est-ce que tu fais là ?
Un recruteur d'Arsenal, il va venir te voir. C'est une chance unique pour toi. Ça peut changer ta vie.
Qu'est-ce que tu crois qu'il joue ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ?
Maintenant qu'il t'a vu jouer, il trouve que tu es trop petit.
Alors ?
Il m'a sélectionné.
Mon fils est prêt à Arsenal !
Ils m'ont pas recruté, j'ai menti.
Oh putain.
Mais pourquoi t'as fait ça? J'aimerais bien qu'on parte ensemble en Angleterre.
Alors il va d'abord falloir vous occuper de vous. Vous vous sentez capable?
Lâche-moi.
Tu pars avec papa, c'est pas un footballeur que tu deviens, c'est barman.
What is your name? My name is Ron.
Oh merde.
Bonjour. Ben ouais. Pastis bière à 15h, du chéri.
Finalement, ça marchait pas, Arsenal. On pourrait continuer à venir ici et à passer du temps ensemble. Hein.
Il a fait ça pour son père, pour le sortir de son trou.
Mais t'as pas à t'occuper de lui, t'es pas responsable de tout le monde. Hein.
Et cette fois-ci, vous allez vous battre.
C'est mon truc, la bagarre. Tellement merdé toutes ces années. Mais là, je vais y arriver.
La fourmi, y a pas un insecte qui a autant le sens du collectif. Tout pour la survie de l'équipe. Il va comme un grand surnom.
C'est un discours de papa, ça.
Voilà, fourmi de Rapenaud.
Bah, si on a vu le Sans Famille, là, on le reconnaît, le petit gars. Là, hein. Pour ceux qui ont vu le film Sans Famille.
Et on continue avec... qu'est-ce que tu nous proposes maintenant?
Ah bah écoute, là, ça va être comme l'histoire de Radio Entre Deux Mers entre Damien et Anne qui font la même émission. Ça s'appelle Inséparables. à la radio uniquement, bien sûr. Je rassure tout le monde. Donc, Inséparables, c'est une comédie française de Varante Soudjian, qui est un réalisateur, adaptateur, scénariste français de 41 ans. En fait, c'est son deuxième long métrage à cet homme-là. Après Walter, qu'il a sorti en mars 2019. On en a parlé de Walter, ici, à l'antenne. C'est l'histoire d'un braquage en hypermarché, là, avec un vigile qui était un peu secoué, qui était un ancien guerrier.
Il y avait déjà Alban Ivanov dans
ce
film.
Oui, ben justement, il y avait Alban Ivanov, oui, tout à fait, qui jouait justement dans Walter, et qui jouait aussi dans La Vie scolaire, qui joue aussi dans La Vie scolaire. On a aussi parlé de lui pour La Vie scolaire. C'est lui, le chambreur, là, qui fait le... Dylan, le chambreur. Voilà, qui est sorti le 28. On en a parlé la semaine dernière. Donc, ben c'est pour ça, Alban Ivanov, là, il était déjà là comme chef de bande, en fait. Mais j'en avais parlé, je m'en souviens, parce que c'est un film qui est très drôle, Walter. Et bon, j'espère que beaucoup de gens l'ont vu, parce qu'il était vraiment bien drôle. Et voilà, c'était... une grosse détente, en fait. Donc, Inséparable, on revient à Inséparable. Inséparable, c'est l'histoire de Mika. C'est un petit escroc qui a fait un rapide tour en prison. Il a déjà fait un rapide tour en prison. Je ne sais pas ce que ça veut dire, rapide tour en prison. Bah, ça peut aller d'une semaine à 6 mois, quoi, un rapide tour. Et il a fait la connaissance... c'est en prison, en fait, qu'il a fait la connaissance de Poutine. Non, pas Poutine, non, pas celui-là. Hein,
pas Vladimir.
Non, c'est pas Vladimir, parce que lui, il a fait connaissance de notre président, il a fait connaissance de Gérard, Depardieu. Enfin bref, il a fait beaucoup de connaissances, mais c'est pas celui-là. Non, ça, c'est un Poutine. Ça doit pas être pour rien qu'il a un surnom comme ça, je pense, d'ailleurs. Hein. Poutine, un détenu. Alors, c'est dommage, après ce que je viens de dire, parce que c'est un détenu cinglé et imprévisible. Je suis désolée, c'est pas du tout... voilà. Donc, sitôt sa peine purgée, Mika décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu'il s'apprête à épouser la fille d'un riche homme d'affaires, son passé le rattrape. Poutine débarque sans prévenir. Bah oui, c'est l'époque, hein, il n'y a pas de doute. Mika va vite réaliser qu'on ne se débarrasse pas aisément d'un tel boulet. Ben j'espère qu'on n'aura pas la même impression, nous, ici en France. Après, c'était pour rire. Alors, Inséparable, je l'ai dit, j'ai dit qui était le réalisateur. Très, très, très bon réalisateur, d'ailleurs. Hein. Alors, on a, dans les rôles principaux, Ahmed Silla. Alors là, tout le monde le connaît maintenant, Ahmed Silla. C'est sûr, c'est Mika, ben, c'est lui, le petit escroc. Donc, on a Alban Ivanov, hein, c'est ce qu'on disait, Poutine, un petit peu cinglé. On a Judith Elzaïn, on a Ornella Fleury, Christian Bugeaud. Alors lui, Christian Bugeaud, oh, pour le resituer, cet homme-là, on le reconnaît quand on le voit, si on a l'habitude d'aller au cinéma, mais là, c'est pour le resituer, il était dans les Visiteurs 2, dans les Couloirs du Temps, c'était lui qui jouait le rôle du dentiste, le mari de Muriel Robin. Bah, c'est lui. Voilà, c'est pour vous le resituer, mes petits choux. Christian Bugeaud, tu vois, toi, Damien, tu vois à peu près qui c'est, du coup, le dentiste de...
Tout à fait, oui.
Le pauvre qui voit sa vie complètement éclatée par l'arrivée des visiteurs. Voilà, bah c'était lui. Donc, c'est un excellent acteur. Dans les rôles comiques, il est évident, absolument. Donc là, dans Inséparable, il est très bien également. À voir. Écoutez, là, ça dure 1h34. Ça fait du bien, ce genre de film. Ça détend, ça déstresse.
On écoute la bande-annonce.
Ah bah oui, si tu l'as, merci.
Que vous êtes accusé de détournement de fonds pour 50 000 euros, d'accord ?
Pas jusqu'à ce soir pour rembourser. Sinon, tu vois ta petite valise, là. On va te mettre dedans.
Elle est beaucoup trop petite.
Mais non, c'est pas trop petit. Regarde, en plusieurs morceaux, ça rentre.
Allez-y, monsieur Merlin, il va menacer. Mettez-moi en prison, je vais en prison. Foutez-moi en prison, bordel !
Poutine, il y a un nouveau collègue pour toi.
On m'a soi-disant enfermé pour atteinte à l'intégrité physique d'un groupe de personnes, alors qu'en fait, c'est juste une agression à la grenade.
Petite salope.
Tu me dis s'il t'emmerde.
Ouais, lui.
Il t'a dit un gros mot ?
Ouais, il m'a dit un gros mot, ouais.
Bonne nuit, copain.
Quand je vais dehors, il va falloir que je rachète une identité.
Dark Vador ! Ah quoi ? Il était noir, Dark Vador.
Je suis ton père.
On se revoit dehors, hein ? Bah bien sûr qu'on se revoit dehors.
Comment je fais pour te retrouver ?
Je serai dans la nuit, hein.
Michael Vador ?
Ouais, voilà, c'est ça, Michael Vador. Thomas, c'est quand tu veux ta revanche au ping-pong.
T'es encore en train de bosser, celui-là, hein ?
À nos futurs mariés.
Comment ?
Chérie, c'est qui ?
Rien, chérie, c'est pour le calendrier.
À quoi, t'es pas content de m'avoir ?
Eh bah si, carrément, si. Et t'as fait tous les Michael de France ? Parce qu'on est beaucoup quand même.
Bah oui.
Je me suis rangé, ils savent pas que j'ai fait de la prison avec toi, fais pas de gaffe.
Je vais me tenir.
Poutine, un ami de passage.
Ah, Poutine ?
Poutine, Vladimir Poutine.
Vous foutez de ma gueule ?
Poutine, on n'est plus en prison là, dehors ça se passe pas comme ça.
On vous remercie.
Tout allait bien dans ma vie jusqu'à ce que tu débarques. Je vais tout perdre à cause de tes conneries. Tu l'avais pas démilitarisé ?
Ah si, avec le scotch.
Il est con ou quoi ?
Voilà donc Inséparable, Ahmed Silla, Alban Ivanov. Ça va être un duo qui détonne.
Mais si, il se fait appeler Vladimir finalement, il dit Vladimir Poutine.
Oui, ah mais bah, c'est pas, il joue pas son rôle, c'est un nom d'emprunt.
Ah non, il joue pas le rôle. Non, au fait, Judith Zain, elle était déjà dans Walter, hein, cette actrice-là. Elle est très douée. Hein. On la voit beaucoup dans des... C'est dommage, on la voit dans des téléfilms. Elle fait pas assez de cinéma, je trouve. Parce qu'elle a tout. Elle a le physique, elle a le talent. Mais elle avait déjà donc joué pour Varant Soudjian, le réalisateur. Inséparable. Mais bon, oh, ben, ça détend. Hein. Ça ne peut faire que du bien, ce genre de film. Alors ensuite, eh ben, j'ai une comédie, romance, c'est français, ça s'appelle Andy. Andy, c'est de Julien Veil, qui est un réalisateur scénariste français. C'est son premier long métrage pour le cinéma. Il a réalisé des courts métrages et un téléfilm, Ticket gagnant, qui est passé à la télévision en 2009. Alors c'est l'histoire. Alors il y a Thomas, un doux oisif à qui tout réussit et qui a mené la vie sans faille, qui a mené sa vie pardon sans faille et sans le moindre effort. Voilà, c'est-à-dire que bien, tout va bien, il fait rien, ça s'arrange, tout est bien pour lui jusqu'au jour où il se retrouve contraint de vivre dans un foyer. C'est là qu'il rencontre Margot qui y travaille, mais surtout s'y réfugie après une histoire d'amour douloureuse. Obligé de travailler, Thomas pense avoir trouvé le job idéal, escort boy. Or, même ça, il ne peut le faire comme tout le monde. Il va alors entraîner Margot dans un partenariat au rebondissement aussi drôle qu'inattendu. Oui, c'est quand même... En fait, le film est un mélange de comédie sociale et de comédie romantique. Mais c'est ce que voulait Julien Veil, le réalisateur, de toute façon. Alors, dans les rôles, on a Vincent Elbaz, c'est Thomas, bien sûr. Ah, bah Vincent Elbaz, il est grand, il est beau, il est doué. Ben oui, escort boy, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et dans le rôle de Margot, on a Alice Taglioni. Alors, j'ai un petit potin que tout le monde connaît, en fait. Elle vit avec Laurent Delahousse. Si, si, si. Ils ont une fille, même, Swan, qui est née en 2016. Je parle tout bas pour pas que ça se sache trop. Bon, en fait, tout le monde le sait. Hein. Mais bon, c'était juste pour un petit potin, pour mes petits chéris. Ensuite, elle a vécu aussi avec Jocelyn Crivrin, je ne sais pas si on dit Kivrin ou Kivrin, qui est décédé dans un accident de voiture, lui, en 2009. Eh oui, voilà, Alice Taglioni. Ensuite, on a Jacques Weber, oui, on a Philippe Cura, Brigitte Rouen, Yannick Samo. En fait, ils sont tous connus quand on les voit, il n'y a pas de problème, c'est un joli casting, ma foi. Et le film est drôle. Je pense qu'il dure 1h30. Je pense que Damien nous a réservé une petite
une bande-annonce que l'on écoute.
Qu'est-ce que tu veux ?
Depuis que tu m'as mis dehors, en fait, je dors à droite à gauche chez les copains.
Je peux peut-être faire quelque chose. Une place dans un foyer de quartier.
Je te sais au courant ?
Non !
Je viens prendre possession de ma chambre. C'est possible d'avoir une chambre seule parce que là, oui, c'est quand même pas terrible.
On avait une suite, mais elle est occupée par Rihanna.
Ça fait combien de temps que tu vis dans la rue ?
Il vit pas dans la rue, il cherche une colocation.
Je crois que ça te ferait du bien d'en bosser un peu, toi, histoire de t'en remettre dans le nez. Je crois que j'ai de la fièvre.
C'est une demi-journée de boulot qui t'a mis dans cet état-là ?
Ça me dérange si je reste un petit peu. Tu vis ici, en fait ?
On est pareil, tous les deux.
Tu travailles ?
Ah, mais quand j'ai vraiment besoin d'argent, je prends un petit boulot.
Dis, tu paierais pour coucher avec moi ?
Quoi ?
Non, mais si t'étais une femme.
Faut te trouver un prénom qui fasse rêver, Thomas, ça fait curé.
Andy ? Ça sonne américain ?
C'est quoi comme boulot ?
Je suis engagé dans une activité dont je n'ai pas mesuré tous les paramètres.
Ça t'ennuie si je t'appelle Maurice ?
Non.
Mais en quoi ça me concerne ?
Parce que je voudrais te proposer un partenariat.
Pourquoi moi ?
Parce que t'as l'air honnête.
Donc tu proposes un truc malhonnête ?
Non, je veux plus.
Non, c'est qui celle-là ? Je suis sa femme.
Je suis juste le temps de gagner un peu d'argent. Après, chacun repart de son côté.
En mais ça quoi ? Andy ?
Oui. J'arrête.
Tes combines, là, tes arnaques, tu les feras tout seul maintenant.
J'aimerais bien être comme toi, avoir besoin de personne. J'ai jamais osé poser la main sur toi. Tu te fous trop les jetons.
Voilà Andy, donc Vincent ouais. Elbaz et Alice Taglioni.
On a une petite idée quand même aussi, là. C'est pareil, c'est un film pour se détendre, hein, il n'y a pas de doute. Bah, pour une rentrée, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Et puis, j'ai mis de côté un drame américain. J'ai trouvé que ça valait la peine. Voilà, c'est un premier long métrage, en fait, qui a été réalisé en 1994 et qui sort maintenant. Ça s'appelle River of Grass. Ça se passe derrière les Everglades, la rivière d'herbe. C'est vie cosy, seule, dans un mariage sans passion. Ignorant ses enfants, elle rêve de devenir danseuse, acrobate, gymnaste. Une nuit dans un bar, elle rencontre Lee, un jeune homme sans emploi qui vient de récupérer une arme à feu. C'est un film de Kelly Richard, qui est une réalisatrice, scénariste, monteuse américaine, 54 ans. Elle a, dans les rôles principaux, on a Lisa Bowman, chouette, bien, bien, bien l'actrice là. Qui joue Cozy. On a Larry Fessenden, qui joue Lee, bien aussi. Dick Russell, dans les rôles principaux. Kelly Richard, là, elle définit son premier long métrage qu'elle a réalisé, justement, je le disais, hein, en 94, River of Grass, comme un road movie sans route, c'est ce qu'elle dit. Une histoire d'amour sans amour. Une aventure criminelle sans crime. En fait, ça ramène cette réalisatrice dans l'univers et les lieux de son adolescence, les paysages de banlieue en Floride du Sud. Elle nous dit « Dead County est vraiment un lieu étrange et fragmenté. Il n'y a pas de découpage du territoire clair, donc les magasins de bricolage se retrouvent dans le même centre commercial que les strip clubs. Jusqu'il y a 10 ou 15 ans de cela, presque tout Broward n'était fait que de marais. Ah oui, c'est extraordinaire, hein, ce coin-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles isolées, éparpillées sur des petites parcelles de terrain. Pendant la saison des pluies, une grande partie de leur gazon n'est plus que de l'eau boueuse. Ouais, ça donne une petite idée de l'endroit où se situe cette histoire. C'est alors que la Floride est réputée pour être un état d'accueil pour les tournages, l'équipe de River of Grass découvre très vite que cette réalité s'applique uniquement aux productions à gros budget. Comme la ville leur refuse des autorisations de tournage qui auraient évité de payer des permis faramineux, ils sont obligés de tourner sans autorisation, la plupart du temps, quoi. Sur les 19 jours de tournage, c'est fou, quoi. Il y a eu presque 16 jours d'altercation avec la police. Sur 19 jours, 16 jours d'altercation, ça a dû être très pénible. Les incidents les plus sérieux ont été notamment l'arrestation du gaffeur, la confiscation de tout le matériel sonore, de prise de vue et de lumière, ainsi que deux tentatives d'arrestation de l'actrice principale pour fait d'agression aggravée. Et Kelly Recha se souvient. Mon père revenait de sa garde de nuit et trouvait un moment de répit parce que c'était la période des pluies et que tout était dans la boue, quoi, en fait. Et donc, voilà, il se souvient qu'il se retrouvait là, dans ce marécage. C'est une histoire assez tragique, finalement, quand même, hein. Alors, en fait, la grande partie du casting s'est déroulée à Miami. Bon, il y avait des groupes de théâtre dans le coin qui donnaient un petit coup de main. Ils ont utilisé le salon des parents de la réalisatrice en guise de bureau de production. Et les gens venaient nous voir en collant leur visage sur la porte-fenêtre et en disant « Salut, j'ai entendu dire que vous faisiez un film, est-ce que je peux jouer dedans ?» Voilà, ça s'est passé comme ça. Tous les comédiens que nous avons rencontrés, nous dit-elle, avaient tout en haut de leur CV la scène de la piscine du film « Le golf en folie » de Harold Ramis avec Bill Murray. Enfin, c'est vraiment quand même... Ce casting a permis de trouver plusieurs des acteurs secondaires. Voilà. C'est quand même... Les images et les histoires de River of Grass s'inspirent de l'enfance assez sombre de Kelly Richards dans les banlieues de Floride. Contrairement à la plupart des films tirés d'une expérience personnelle, celui-ci rejette le sentimentalisme et le politiquement correct, souvent présent dans les drames à caractère de confession, surtout quand le personnage principal est une femme. Ça a été un tournage quand même assez... Enfin, c'était en 1994, hein, ça peut-être évolué depuis pour les tournages en Floride. Mais comme elle disait, en fait, ce sont les films à gros budget qui sont bien reçus, quoi. Pourquoi ? Parce que les films à gros budget rapportent de l'argent dans une ville, évidemment. Toujours la même chose, River of Grass, c'est pour ça que je voulais absolument le mettre de côté. Ça dure 1h14. Mes petits choux, si vous avez l'occasion, allez le voir, allez voir ce film. C'est pas n'importe quel film. Ensuite, j'avais mis de côté un musical. Un film musical, c'est un drame. C'est musical et dramatique, c'est espagnol et ça s'appelle Danza. Danza, c'est quoi ? Danza, c'est la tempête qui éclate après une longue journée de travail dans les champs. Quand la pluie cesse, la vie refait surface au cœur des terres, autrefois stériles. Un fruit éclos et mûri résiste aux assauts de la maladie et devient la pomme qui va donner naissance au cidre. Vient ensuite l'heure de fêter la récolte, trinquer et célébrer l'amour. C'est un film de Telmo Enal, qui est un réalisateur scénariste espagnol. Il a déjà des nominations, lui, il a 52 ans. Le film est titré « Ce film nous fait vivre un délicieux voyage sensoriel, une ode à la vie ». Le film est un conte, en fait, c'est un conte chorégraphié où l'histoire est racontée par la danse basque en particulier. C'est la danse qui est là comme un langage, en réalité, hein. Alors, on a Gary Otamendi, Amaya Irigoyen dans les rôles principaux. Autrement dit, je l'ai mis de côté parce que c'est un film qui ne parle pas. Tout est... En fait, il n'y a pas de dialogue. Tout est... Tout est expliqué, tout est traduit par la danse. Et on comprend très bien tout ce qui se passe. J'ai trouvé que c'était très beau. Ça dure 1h38, c'est pour ça que je voulais en parler. Dansa. Puis j'avais Le mariage de Verida. Alors, c'est un drame italien. C'est l'histoire de Verida, qui est une jeune femme mauritanienne. Ça, c'est un film terrible. Elle partage sa vie entre son travail d'esthéticienne dans un salon de beauté et elle est sortie avec ses amis. Un matin, sa mère lui annonce qu'on lui a trouvé un mari. Commence alors la tradition du gavage. On lui demande de prendre du poids pour plaire à son futur mari. Alors que le mariage approche, Verida a de plus en plus de mal à supporter cette nourriture en abondance, le changement de son corps et l'idée de se marier avec un homme qu'elle n'a pas choisi. C'est un film de Michela Occhipinti, qui est un réalisateur scénariste, enfin une réalisatrice, pardon, c'est une femme, Michela, scénariste italienne de 51 ans, qui a déjà eu 2 nominations pour des courts-métrages. Et ça, c'est son premier long-métrage. C'est avec les actrices Verida, Beita Ahmed Deiko, qui joue le rôle de Verida, et Amal Saad Bour Oumar. Ce sont des actrices mauritaniennes qui sont connues là-bas. Hein. J'ai vérifié. Le film parle en fait d'une culture et d'un monde lointain de manière simple et franche. Il aborde le mariage forcé et la tradition mauritanienne du gavage. Eh oui! Eh oui, ça existe vraiment. C'est les diktats de la beauté féminine. C'est un renversement, en fait, par rapport à par exemple, à l'Europe, où, au contraire, les femmes, pour plaire à un homme, font des régimes draconiens pour rester très minces. Les mannequins aussi, etc., où on a plus un souci de ce côté-là chez nous que de gavage, hein, c'est évident. C'est là qu'il y a un côté quand même intéressant par rapport à toutes ces cultures, justement, à ces différences dans les cultures. C'est quand même... Alors, c'est en observant ces rides que la réalisatrice s'est interrogée sur sa vieillesse et sur la manière dont beaucoup de femmes recherchaient la jeunesse à tout prix. Voilà. Alors qu'elle réfléchissait à un film sur les diktats de la beauté féminine dans notre société occidentale, elle a lu un article sur le gavage en Mauritanie. Des futurs mariés qui doivent devenir très grosses pour plaire à leurs compagnons. Elle nous dit « J'ai immédiatement compris que j'avais trouvé ce que je cherchais, une histoire qui racontait le même phénomène qu'en Europe de l'Ouest, mais avec des exigences contraires. » Le mariage de Verida reflète la relation très complexe qu'ont toutes les femmes avec leur corps. Elle s'est rendue en fait 3 fois en Mauritanie, Michela Occhipinti. En 2012, 2016, 2018, elle recherchait des jeunes femmes qui pouvaient partager leur expérience personnelle. Et oui, nous avons appris à nous connaître, nous sommes devenus proches malgré la barrière de la langue. Et elle nous dit, quand j'ai vu les yeux de l'actrice, de Verida, ses yeux si lumineux, j'ai su qu'on allait faire quelque chose ensemble. C'était elle et personne d'autre, dès qu'elle l'a rencontrée. C'est une belle histoire quand même, je trouve. C'est pour ça que je voulais en parler. Et la cérémonie du gavage, en particulier, est encore largement répandue dans le désert. Hein. 40% des filles, voire plus, subissent cela de nos jours. Il était important pour la réalisatrice de montrer que si cette tradition n'est pas systématique en Mauritanie, elle n'était pas non plus une pratique tribale limitée aux campagnes. Je vais y arriver. Hein, non, ça existe partout. Ce n'est pas tribal, elle insiste là-dessus. C'est social. Et si au contraire, on montre une fille de la ville qui travaille, qui lit des magazines, qui fait les mêmes choses que n'importe quelle autre jeune femme dans le monde, alors le public peut s'identifier. Ce sont des pratiques traditionnelles et modernes à la fois. Important quand même, hein, de savoir ça. On apprend un tas de choses avec le cinéma, vous savez, mes petits choux. Eh oui, le mariage de Verida. 1h34. Moi, j'ai un tas de choses, là. J'étais ravie d'apprendre tout ça. Ensuite, j'avais Viendra le feu. Viendra le feu, c'est un drame espagnol, français, luxembourgeois. C'est l'histoire d'Amador Corro qui a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu'il sort de prison, personne ne l'attend. Il retourne dans son village, niché dans les montagnes de la Galice, où vivent sa mère. La Galice, Benedicta et leurs 3 vaches. La Galice, c'est dans le nord-ouest de l'Espagne. Hein, c'est pour voilà. Et en fait, c'est une région qui est très affectée par les incendies. Il y en a tout le temps. C'est en Galice. Voilà. Là, on parle de la Galice actuellement. Hein. Leur vie s'écoule, donc, leur vie, sa vie et celle de sa mère, au rythme apaisé de la nature, jusqu'au jour où un feu vient à dévaster la région. C'est un film d'Olivier Lax, qui est un acteur, réalisateur, scénariste français de 37 ans. Il a déjà eu 2 prix et 10 nominations, dont 1 prix et 5 nominations au Festival de Cannes 2019. Un certain regard, le prix du jury. Et le Grand Prix Nespresso en 2016 pour Mimosa, la voix de l'Atlas. Ça se passe d'ailleurs dans le Haut Atlas marocain. C'est un très beau film. Alors avec ce film, en fait, viendra le feu. Olivier Lax a voulu faire un mélodrame sec. C'est-à-dire il y a une vérité poignante dans le regard mélancolique et les épaules tombantes du héros, si on peut dire, d'Amador. Il est beau, en même temps on sent qu'il souffre. Il est à fleur de peau et le monde actuel est inapte à accueillir sa fragilité. Amador Arias, l'acteur enfin, qui joue le rôle, il a été garde forestier. Oui, aujourd'hui, il s'occupe des animaux malades de la forêt. En espagnol, Amador, nous dit le réalisateur, signifie celui qui aime. Il est une figure d'expiation, un innocent, un inadapté. La déraison du monde, la souffrance d'une nature malmenée trouvent en cet homme un exutoire. Voilà ce qu'on nous dit. J'ai trouvé que c'était très beau. On a aussi dans le rôle de la maman, on a Benedicta Sanchez. Viendra le feu, 1h25. Je trouvais que c'était beau. J'avais mis de côté La Liberté, qui est un drame historique espagnol, français, portugais, qui a eu 6 nominations au Festival de Cannes en 2019, qui est interdit au moins de 16 ans avec avertissement. C'est l'histoire de Madame Dumval. Dumval, c'est un duc, le duc de Tésis et le duc de Wande, libertin expulsé de la cour puritaine de Louis XVI. Louis XVI recherche l'appui de légendaire duc de Valken, séducteur et libre penseur allemand, esselé dans un pays où règne hypocrisie et fausse vertu. Leur mission ? Exporter en Allemagne le libertinage, philosophie des Lumières fondée sur le rejet de la morale et de l'autorité, mais aussi et surtout retrouver un lieu sûr où poursuivre les jeux dévoyés. Les novices du couvent voisin se laisseront-elles entraîner dans cette nuit folle où la recherche du plaisir n'obéit plus à d'autres lois que celles que dictent les désirs inassouvis. Et oui, moins de 16 ans avec avertissement, normal. C'est un beau film, mais attention, il n'est pas pour tout le monde. Albert Serra est le réalisateur, scénariste, producteur espagnol. Il a eu, donc, j'ai dit, 6 nominations pour ce film. Il a déjà eu 2 prix et 13 nominations. Il a 43 ans. Ça commence plutôt bien pour lui. Dans le film, on a Helmut Berger. Je ne sais pas si on se souvient de lui. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu au cinéma, cet homme-là. Il fait le duc de Walken, c'est-à-dire il fait le libertin, le plus libertin de tous. On a Marc Susini, Iliana Zabet dans les rôles principaux. Alors c'est titré, j'ai voulu donner les titres parce que c'est quand même, ça donne une idée. Quelle secousse ! Point d'exclamation. Un événement majeur de l'histoire du cinéma. Albert Serra sublime la nuit des libertins au siècle des Lumières. Un film terriblement libre quand la fête galante vire à la messe noire. Une mise en scène sublime. Voilà comment c'est titré, voilà pourquoi je voulais en parler. C'est un beau film, bien qu'il soit interdit au moins de 16 ans, ça n'a rien à voir. C'est pas de la violence, c'est du désir. C'est l'histoire de... Cœur de pierre, c'est un documentaire français d'Olivier Jobard et de Claire Billet. Ce sont 2 réalisateurs français. Il a été présenté dans tous les festivals. Il est très touchant, ce film, ce documentaire. Gorban, clandestin afghan de 12 ans, vient d'arriver seul en France après un périple éreintant de 12 000 kilomètres. Les réalisateurs ont filmé son parcours d'intégration pendant 8 ans, rythmé par ses entretiens avec son psychologue. De l'enfance à l'âge adulte, Gorban cherchera à découvrir qui il est. Tiraillant entre la France et l'Afghanistan, il partira à la recherche de son passé. À voir si vous pouvez le choper, mes chéris. Cœur de pierre. Ça touche le cœur, justement. Et puis, pour finir, j'avais un documentaire américain. Alors, si vous aimez les fusées, les départs sur la Lune, et même les hommes sur la Lune, il faut aller voir Apollo 11, documentaire américain, en exclusivité au cinéma. Attention, note, du 4 au 8 septembre uniquement. Ça, c'est à noter.
Ça va être rapide.
Ah oui, pour les fans. Mais il y a plein de gens qui adorent ça, hein, qui adorent voir ce genre de film. Et c'est réalisé à partir d'images 70 mm inédites, récemment découvertes, et plus de 11 000 heures d'enregistrement audio. Apollo 11 plonge au cœur de la plus célèbre mission de la NASA et des premiers pas de l'homme sur la Lune. Ce film est un voyage en immersion aux côtés des astronautes et du centre de contrôle de la mission et permet de vivre au plus près les inoubliables journées de 1969 dont on célèbre cette année le 50e anniversaire. Déjà 50. C'est de Todd Douglas Miller, qui est un réalisateur, chef monteur, producteur américain. Et alors, le film, en fait, revient sur la première mission lunaire, hein, c'était ça, de l'histoire, qui aboutit à l'alunissage des commandants, du commandant Neil Armstrong et du pilote Buzz Aldrin. C'était le 21 juillet 69, exactement. Il a été, en fait, ils sont dans le film, hein, ils se jouent eux-mêmes, hein, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et il y a Michael Collins aussi, deux, qui était aussi dans le coup, si j'ose dire. Le documentaire a été présenté en première mondiale au dernier festival du film de Sundance où il a créé l'événement. Il est passé en salle IMAX en présentation spéciale pendant une semaine. Alors la salle IMAX, c'est le fameux Dome IMAX où quand on est dans cette salle, j'ai eu la chance moi de connaître la salle qui est fermée je crois depuis le Dome IMAX de la Défense à Paris. C'est une quand on est assis, c'est des gradins qui sont très incliné, comme ça, c'est pas une salle ordinaire. Hein. Et quand on est assis sur un siège incliné comme ça, le film est tout autour de nous, c'est-à-dire qu'on est dans le film. Je me souviens avoir vu la planète bleue, je crois, j'avais vu. Enfin, j'ai eu cette chance-là il y a très longtemps, parce que le Dome IMAX ne fonctionne plus, si j'ai bien compris, de la Défense. Les places étaient très chères, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et alors, voir Apollo 11, évidemment, dans une salle IMAX, ça aurait été génial, mais je pense que ce serait bien aussi de le voir dans une salle normale, parce que ça doit valoir la peine pour les fans, pour les gens qui adorent cette histoire. C'est titré impressionnant, stupéfiant, magistral. Voilà. C'est une expérience cinématographique à ne pas manquer. Je voulais finir sur cette belle... sur ce beau film, quand même, Apollo 11, du 4 au 8, hein, dans les cinémas. Regardez bien autour de vous, mes petits chéris, si vous aimez cette histoire des premiers hommes qui ont foulé la Lune, le premier alunissage. Bien, ben voilà. Damien, je crois qu'on a fini.
Merci beaucoup pour ce début septembre. On a beaucoup de films à la sortie.
Oui.
Et on se retrouve mercredi prochain à 11h pour une nouvelle conversation autour du cinéma.
Eh bien, ma foi, il n'y a pas de problème. En attendant, ben, n'oubliez pas d'aller au cinéma, dans les cinémas à proximité. Hein, je vous le dis de temps en temps, ben, oui, je sais bien, je me répète. Mais c'est vrai qu'à Radio Ventre de Mer, on aime bien ces cinémas de proximité, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Mais après, c'est vous qui choisissez, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, ben, profitez encore du beau temps. Ben, bon, là, maintenant, il fait un peu moins chaud, mais bon, c'est bon, l'été va se terminer, bien sûr. Et enfin, il est terminé d'ailleurs, c'est comme ça. En attendant, n'oubliez quand même pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.